L'imposture, première partie, chapitre 3. Ce sympathique Nigo m'a tout de bon réveillé, dit à voix haute l'abbé Sénabre, je ne me coucherai donc pas cette nuit. La fuite de l'ancien curé de Costerelle le laissait rempli d'une joie tranquille où l'ironie ajoutait à peine une pointe d'amertume. Bien loin de le troubler, le souvenir du suprême, de l'inutile effort de son fragile ennemi, semblait devoir lui être un secours contre toute nouvelle épreuve pareille à celle qu'il avait subie. C'était comme s'il eût fait sur le vieux prêtre inutile l'expérience de sa propre folie, ainsi qu'on inocule la tuberculose ou la peste à un animal de laboratoire. « Ai-je donc été si loin dans le désir ?» se disait-il en souriant. « Ai-je donc été pour le moment le digne interlocuteur de ce maniaque ? Comment n'aurais-je point tourné la tête du bonhomme en l'honorant de ma confidence, en sollicitant ses conseils ? D'un chanoine, il ne pouvait évidemment attendre qu'une prodigieuse aventure. Il l'eût plutôt suscité. Ainsi l'ai-je renvoyé désespéré, non pas déçu. » Il prononçait vraiment de telles paroles, et d'autres encore du même sens, car, à son profond étonnement, il pensait tout haut, faiblesse assez commune aux solitaires, mais dont ce silencieux avait eu jusque-là horreur. À présent, il recherchait d'instinct ce murmure, il écoutait avidement sa propre voix, il y avait un soulagement infini. Jusqu'à ce qu'il eût achevé, allant et venant à travers la chambre de son pas pesant, il ne cessa ainsi de s'entretenir avec lui-même, et parfois il riait d'un rire étrange. Néanmoins, il fit sa toilette dans le plus grand calme, décidé à passer dans sa bibliothèque le reste de la nuit. Sa hâte était grande de s'y retrouver devant la feuille de papier blanc, assistée de ses livres chéris, mais c'était surtout cette feuille de papier blanc qui luisait dans sa pensée comme un phare. Il voyait la page écrite la veille, il brûlait du désir de l'achever, il l'achevait déjà. Sa mémoire, comme exaspérée, lui retraçait ligne par ligne l'article pour la revue de la semaine, commencé depuis 8 jours, réfutation fort utile et pertinente d'un livre récemment paru du père Berthier, d'ailleurs assez médiocre, sur la bienheureuse Thérèse de l'enfant Jésus, dont le sourire céleste, tentation des niais faciles, restera toujours la rose la plus sanglante et la mieux défendue des jardins du paradis. Continuant à parler à voix basse, entrecoupé du même rire incompréhensible, il déclamait pour lui seul les pages mieux venues. Son goût avait toujours été grand de surprendre quelques-uns de ces prêtres édifiants dont le pâle zèle s'écoule intarissablement à travers d'illisibles livres. Était-ce le goût de les surprendre, eux, ou l'inaccessible sainteté? Mais il ne pensait pas avoir ressenti jusqu'alors une si avide impatience, une possession si parfaite, une lucidité plus aiguë. Qui l'eût vu, au rouge reflet de la lampe posée loin, le blême clair de lune dans les vitres, d'un pas calme et lourd, ses fortes épaules roulant imperceptiblement sous l'étoffe tendue de la soutane, et les puissantes racines de sa mâchoire jusqu'à la nuque impavide, eût envié cette puissance tranquille, pourtant déjà détruite au-dedans, frappée de mort. « Mais qu'ai-je à rire ? » se dit-il tout à coup. Et à cette minute, bien qu'encore obscurément, l'accent de son rire l'étonna. Ce fut alors qu'il se dirigea obliquement vers la porte et, en passant, souffla la lampe. Le faux jour livide hésita d'abord, rampa le long des hauts rideaux, puis, ainsi qu'une bête sournoise, se couchant sur le sol au pied de la fenêtre froide et blafarde, refusa d'aller plus loin. Le regard de l'abbé Sénabre, en s'abaissant, rencontra quelque chose à terre qu'il ne reconnut pas d'abord. Il ramassa cette chose et la tint au bout de ses doigts, à la hauteur de ses yeux, avec une grande surprise et un peu de dégoût. C'était le rabat de l'abbé Chevance. Que dire ? Cela n'était rien. Et en effet, le chanoine ne vit qu'un moment le carré de drap noir. Un problème venait de se poser, qui semblait tout remettre en question du même coup. « Problème » est un gros mot, sans doute. Une objection, plutôt, fut élevée d'abord timide, puis pressante de plus en plus, puis dans la conscience encore troublée, d'une redoutable immobilité. Bien qu'il l'ignorât, l'abbé Sénabre en était à ce point où l'équilibre intérieur serait un miracle de coïncidences heureuses, d'accords imprévus, où le moindre obstacle lève une vague immense, ainsi qu'un écueil dans la giration de l'eau. Qu'il l'eût voulu ou non, il ne pouvait plus avoir raison d'une pensée ennemie, et il était d'ailleurs impuissant à la fuir. Sans aucun doute, ce rabat s'était détaché au moment où le vieux prêtre avait perdu pied sous la poussée de son formidable adversaire. Il revoyait le corps étendu, la soutane troussée sur le gros bas noir, le gigotement puéril. Pourquoi l'ai-je frappé ? Une violence si subite, une si extraordinaire dépossession de soi, la mystérieuse fureur disparue, demeurait forcément inexplicable. Quel que fût son désir de retrouver l'état d'indifférence habituel, ou se persuader l'avoir retrouvé, il restait ce petit fait singulier, ce petit fait irréductible. Impossible de ramener les événements de la nuit aux proportions ordinaires, tant que le doute subsisterait. Le calme, l'ironie un peu hautaine, imperturbable de l'abbé Sénabre est connu de tous, et presque déjà légendaire. À ce point de vue, la brutale exécution du plaintif Pernichon ne s'expliquait pas aisément. Mais que dire de ce qu'il avait suivi ? « Pourquoi l'ai-je frappé ? » répétait-il, parlant toujours à voix basse. « Il fallait que je fusse hors de moi. » Sa pensée chopait à ce seul obstacle. Il n'était attentif qu'à la recherche de ce qu'il avait porté en avant contre un ennemi désormais disparu, effacé, anéanti, et avec une telle haine au cœur toute vive. Contre qui ? Contre quoi ? Alors il entendit de nouveau son rire et sursauta. C'était moins un rire qu'un ricanement convulsif, involontaire, déclenché bizarrement, méconnaissable. Depuis quelque temps déjà, il accompagnait sa réflexion ainsi qu'une ponctuation mystérieuse, et il ne s'en serait pas avisé, tant cette chose inconnue se liait étroitement au plus intime, au moins avoué ou avouable, de ses pensées. Ce qui avait soudain retenu son attention était une certaine disproportion essentielle de ce rire, non pas à la rumination intérieure, mais à l'attitude, à la tenue, à chacun de ses gestes, toujours graves et mesurés, enfin à tout ce qui paraissait de lui au dehors. Sa surprise fut vive, mais elle se dissipa aussi rapidement que ce qu'il avait fait naître, et il ne subsista d'elle qu'une inquiétude obscure, une espèce d'attention secrète. Mot à mot, il guettait, il épiait le retour de ce témoin étranger, tandis qu'il reprenait ses allées et venues à travers la chambre, avec une indifférence affectée. C'est ainsi qu'il reposa sur la table le rabat chiffonné, maculé de taches et puant le tabac, car l'ancien curé de Costerelle prisait beaucoup, puis revint vers la fenêtre, dont il ouvrit tout grand les rideaux. Mais en vain. La solitude de la rue, le ronflement du vent ramenèrent sa pensée au vieux prêtre, et il imagina son retour, à travers la ville déserte, jusqu'à la chambre d'hôtel, dont il avait connu un soir la misère. D'ailleurs, ce n'était pas au souvenir de l'abbé Chevance qu'il venait d'arrêter son esprit, mais à sa parfaite, sa définitive, son impitoyable solitude. Il lui sembla qu'il comprenait seulement à l'instant combien cet homme était seul, isolé, seul entre les autres hommes, plus séparé d'eux par la singularité de sa nature que par l'espace ou le temps. Il en ressentit une vive joie. Qu'importe un tel fantôme, ami ou ennemi ? Que peut, pour ou contre, ce vieillard sale et craintif ? Il était dans la foule, ainsi qu'un étranger impuissant à se faire entendre, et, s'il y eût songé par impossible, chaque effort fait dans ce sens, comme il arrive lorsque la différence est absolue, irrémédiable, eût aggravé le malentendu originel, tourné à la confusion de l'homme seul. « Pauvre vieux ! » fit-il avec tristesse. Et aussitôt, pour la troisième fois, il entendit son rire. Si bref, si étouffé qu'il fût, son attention sur ses gardes l'avait saisi d'emblée, happé au passage. De nouveau, mais bien plus nettement, la même disproportion l'avait frappé de ce rire, à son attitude, à l'expression même de son visage, qui, sur les derniers mots, s'était pourtant attendri de pitié. Oui, le sentiment de cette disproportion était autrement clair et pressant. Il n'en saisissait pas encore la cause, mais une seconde lui avait suffi pour découvrir le point douloureux au plus profond de son orgueil. Celui que Mgr Dutoit, dans un discours célèbre, avait appelé l'esprit le plus subtil et le plus fin de son temps, se découvrait un rire ignoble. La froideur de l'auteur de Tauler est célèbre, et son sourire contraint. Qui n'a remarqué que ce sourire même est rarement donné ? La mobilité du regard, sa vivacité, parfois sa fixité brusque, sur laquelle se clôt presque aussi rapidement la paupière, supplée à tout. Peu de gens l'ont entendu rire, bien que le lucide et charmant Toulet ait écrit qu'un soir, à un dîner chez Madame de Salverte, la joie inattendue de ce prêtre avait failli la faire crier d'angoisse. Peut-être n'ignore-t-il point cette bizarre anomalie ou cette dangereuse faiblesse. Mais l'eût-il su ou non, ce qu'il venait de surprendre était beaucoup plus singulier. Cette espèce de ricanement sortait de lui, à n'en pouvoir douter, et il ne le reconnaissait pas. Ou du moins, il n'avait sur lui aucun contrôle. Il l'avait écouté avec dégoût, pris sur le fait, ainsi qu'une soudaine clarté découvre à nos pieds une bête immonde, et tout de suite elle est replongée dans la nuit. Il ne le reconnaissait pas, et il lui était pourtant impossible de l'attribuer à une cause purement physique, de le séparer d'une part secrète et réservée de sa pensée, peut-être, de toute autre manière inexprimable. Ce claquement gras de l'air dans la gorge, si surprenant qu'il fût, n'avait pas d'existence propre, était dans une dépendance étroite. De quoi ? Non pas un bruit seulement, mais un écho. Quel écho ? Il n'eût su le dire, et cependant son inquiétude était assez forte pour qu'il ne songeât plus qu'à cette nouvelle conjecture. Il eut même l'enfantillage de chercher à provoquer ce qu'il n'avait jamais reconnu que fortuitement, s'encourageant de son mieux à trouver grotesque ce jeu de cache-cache avec lui-même, mais ce qu'il tira ainsi de sa bouche, timidement d'abord, puis avec colère, ne ressemblait pas à l'autre rire, n'avait pas du tout le même accent. Il s'arrêta. Que n'eût-il donné, bien qu'il craignît toujours la folie, pour douter de lui en cet instant, de ses sens, pour croire à une hallucination de Louis, par exemple, des hallucinations dont les critiques hagiographes font la part si large. Mais on ne connaîtrait rien à la crainte dont il était alors torturé si l'on supposait un moment qu'une telle équivoque fût possible. Il savait déjà que ce rire humiliant manifestait simplement au dehors une réalité certaine, copieuse, une vie concrète à laquelle il avait toujours souhaité de rester étranger. Incapable de nier l'évidence, il en était à retarder seulement l'inévitable éclat. Certaines formes particulières du renoncement échappent à toute analyse parce que la sainteté tire d'elle-même à tout moment ce que l'artiste emprunte au monde des formes. Elle s'intériorise de plus en plus, elle finit par se perdre dans les profondeurs de l'être. Des actes aux mobiles, nous ne saisissons plus les rapports, et le contact, une fois perdu, ne se retrouvant point, à mesure que les faits observés rentrent plus étroitement dans l'ordre logique qui leur est particulier, ils nous paraissent au contraire se délier ou comme se dissoudre dans l'absurde. Pour renouer le fil rompu, il faudrait nous élever nous-mêmes et, par impossible, comme d'un bond, au but sublime entrevu par le héros dès le premier pas de son ascension, but que son âpre et patient désir a par avance possédé, qui est l'unité profonde de sa vie. La vie de l'abbé Sénabre a aussi sa clé, une hypocrisie presque absolue. Qu'on n'entende point par là simplement la constante recherche à l'égard d'autrui, d'un alibi moral, ni rien qui se puisse confondre avec les seuls calculs de l'ambition, mais quelque chose de plus. Le goût, l'ardeur, la frénésie du mensonge et son exercice perpétuel, aboutissant à un véritable dédoublement, à un dédoublement véritablement monstrueux de l'être. L'origine de ce mal affreux doit être recherchée très loin, sans doute jusqu'à la première enfance, alors que le petit paysan, rongé d'orgueil, jouait presque innocemment, d'instinct, au foyer familial, la lugubre comédie de la vocation. Et c'est vrai qu'il la jouait déjà tristement, lugubrement, le jeune avare. Certains hypocrites, même assidus, ponctuels, ont parfois leur défaillance, composent leur rôle avec une sorte de fantaisie, une exagération dans la feinte qui les délivre d'eux-mêmes pour un temps. Peu d'hommes ont la sinistre application de façonner du dedans leurs mensonges. Mais il fut donné à l'homme extraordinaire qu'on voit à ce moment chanceler pour la première fois d'opposer une résistance victorieuse pendant des années à toutes les révoltes de l'âme. Jadis, au petit séminaire de Nancy, ce singulier abbé de Saint-Genest, qui mourut missionnaire à Huet, s'accusait d'éprouver pour son élève, pourtant parmi les plus assidus, une répulsion invincible, et comme on lui en demandait la cause, « Je crois qu'il n'aime pas, » disait-il. « Il ne s'aime même pas. » Ce fut pourtant un petit élève studieux, docile, âpre au travail, comme on est âpre au gain, irréprochable. Seulement, dès le premier pas franchi, son cœur s'était fermé, ne souffrirait jamais plus. Il n'est pas si rare de rencontrer dans les séminaires de ces enfants précoces et volontaires qui, dirigés vers le sacerdoce par l'illusion ou parfois l'aveugle vanité de leurs proches, n'ont plus le courage de se dégager, finissent par en accepter les obligations comme on se résigne à celle d'une carrière ordinaire. Au moins sont-ils des prêtres médiocres, presque tous aisément reconnaissables, l'équivoque de leur triste vie rachetée par les inquiétudes, les soupçons, tout le pathétique des vocations manquées. Mais celui-ci ne ment pas à demi, n'a jamais menti à demi. D'ailleurs, n'était ce mensonge absolu, sans réserve, totalement accepté, le courage lui eût fait défaut de tenir bon, car il a des passions fortes. Sans doute eût-il été chassé des abords s'il ne s'était retiré au centre même de la forteresse. Trop fier pour se contenter des seules apparences, trop fin pour n'en pas reconnaître la fragilité, il avait contraint jusqu'à son âme. En le voyant jadis suivre avec assiduité, ferveur même, les exercices de la double retraite annuelle, qui eût osé l'accuser de duplicité, l'étrange enfant y mettant la conscience, le scrupule d'un ouvrier passionné pour sa besogne, qui travaille pour son propre contentement. Lorsque l'abbé de Saint-Genest l'observait, au cours de la méditation quotidienne par exemple, grave, les sourcils froncés, le regard braqué, pris d'un doute s'il le priait parfois brusquement de vouloir bien retracer pour lui les grandes lignes de la réflexion qu'il avait ainsi absorbée, il répondait sans hésitation, avec une évidente sincérité. C'est qu'en effet, son attention ne s'était pas détournée une minute du sujet proposé, qu'il l'avait épuisé honnêtement. Son intelligence rapide, d'ailleurs merveilleusement tournée vers l'observation intérieure, s'était assimilée non seulement le langage, mais l'esprit même de la vie spirituelle, et il témoignait déjà en ces matières d'un tact exquis. Pareillement, ses confessions eussent trompé le plus fin, il y eût fallu la foudroyante ellipse du jugement d'un curé d'Ars, car elles étaient également sincères, n'y omettant rien que ce refus pervers, diabolique, qui peu à peu le pétrifiait. Il ne cédait même point celle de ses tribulations les plus voisines, les doutes sur la foi, par exemple, ou ce signe plus troublant encore, plus mystérieux, sa répugnance, son horreur invincible de la passion de notre Seigneur, dont la pensée fut toujours si douloureuse à ses nerfs qu'il détournait involontairement le regard du crucifix. Mais un trait paraîtra plus incroyable encore. Après lui avoir imposé des mortifications assez rudes dont il n'omit jamais aucune, le père Brou, son confesseur, lui ordonna de ne s'endormir jamais sans avoir repassé dans son esprit chacun des épisodes principaux du sacrifice du calvaire. Ce qu'il fit, et avec tant de peine que la sueur lui coulait parfois du visage et que son voisin entendit certaines nuits, à travers la mince cloison de bois, son sourd gémissement. Ainsi accomplissait-il ponctuellement chacun de ses devoirs, apportant à l'œuvre de sa perte une puissance de volonté inouïe. Fut-il vraiment, dès lors, possédé? Faut-il chercher dans son enfance la plus secrète une de ces fautes mères dont la germination est si lente, mais tenace, capable de pourrir une race? Qui le saura jamais? Peut-être aussi une autre hypothèse sera-t-elle mieux acceptée. Tel acteur entre assez dans son jeu pour mener un temps une existence bizarrement calquée sur celle de son personnage imaginaire, poussant ce scrupule de la ressemblance jusque dans la vie quotidienne. La puissante nature de l'abbé Sénabre, sur laquelle tant de gens se sont mépris, égarés par une apparente facilité, répugne à la besogne inachevée, va jusqu'au bout de l'effort. Le petit orphelin abandonné de tous, un de ses grands-pères compromis dans l'affaire des chauffeurs de messe et mourant au bagne, son père alcoolique, sa mère tôt veuve, lavant et ravotant le linge des commères dans sa pauvre chaumine de Sarcelat, puis décédé à l'hospice de Bar-le-Duc, n'était point de ceux qui peuvent choisir. Ambitieux de s'élever, affamé de réputation, réduite à grandir sur place, risquant de tout perdre par une imprudence, et non seulement condamnée au sacerdoce, mais encore à s'y distinguer de ses rivaux, plus heureux, plus favorisés. Un précoce bon sens, dont la fermeté, hélas, ne se démentit jamais, lui faisait déjà sentir que la supériorité de son intelligence, à elle seule, l'eût plutôt compromis, qu'il devait moins chercher à s'imposer qu'à se justifier d'abord de son origine et de son passé par une conduite irréprochable, une irréprochable tenue. La crainte d'être joué dans son mensonge, alors que la trame en était encore si nouvelle, si ténue, l'amena peu à peu, après une série de timides expériences, d'inutiles tentatives de libération, à l'observance la plus étroite, la plus stricte, même loin de tout regard, même dans le secret de son cœur, et capable de le tromper lui-même s'il n'eût assez promptement perdu le désir ou le courage de se voir en face. Cette dissimulation peut surprendre d'un garçon à peine sorti de l'enfance. À ne vouloir rien dramatiser, il est permis de croire que le malheureux ne connut qu'à la longue la perfide et pleine possession de son mensonge. Courte délice, vite dévorée. Car lorsque ce mensonge est total, embrasse toute la vie, règle chaque pensée, aucun repos n'est à prévoir sur la route aride et fatale. L'œuvre chaque jour défaite est à commencer chaque jour. Jusqu'au moment où l'être double atteint son point de perfection, son horrible maturité, connaît qu'il n'y a plus de place pour lui sur la terre et va se dissoudre dans la haine surnaturelle dont il est né. Car si désireux qu'on soit de trouver une cause naturelle à ces tragiques aberrations, comment justifier leur raffinement, ce je ne sais quoi d'inutile, de superflu, qui révèle un goût lucide, une lucide délectation? Comment imaginer, par exemple, que l'élève du séminaire de Nancy, qui s'astreignait, non pas en apparence, mais réellement, aux pratiques les plus élevées de la vie spirituelle, n'en tira jamais profit? Sans doute, il refusait son consentement intérieur, ne livrant que cette part superficielle de l'âme qui s'appelle l'intelligence, l'attention. Mais comment ne fut-il pas tenté d'aller plus loin, d'accorder à Dieu quelque chose de plus, un seul acte d'amour, au moins de bonne volonté, lorsque le champ remué n'attendait plus que la semence un seul grain? Il est vrai que sa nature est d'une étonnante sécheresse et qu'on comprend à demi pourquoi son orgueil s'effrayait d'abandonner son dernier, son suprême réduit, ayant ouvert tout le reste. Peut-être encore ne connut-il à aucun moment ce besoin irrésistible chez tant d'autres d'inspirer l'amitié, d'en rendre, d'aimer et d'être aimé, comme s'il comprenait que son mensonge serait alors trop lourd à porter. Mais surtout, son intelligence extraordinairement volontaire fut toujours contre la grâce sa meilleure arme. Animé par une espèce de curiosité dont une certaine cruauté semble le ressort, elle s'enivra vite de ses mystérieuses conquêtes, si adroitement scellées. Et déjà naissait dans ce cerveau enfantin l'œuvre sournoise, têtue, les livres brillants et stériles, au cœur empoisonné, modèle d'analyse perfide, sagace, impitoyable, d'un travail et d'une inspiration si compliqués qu'ils trouveront toujours des dupes. C'est qu'ils plongent dans la propre vie de l'auteur beaucoup plus profondément qu'on ne pense. À une telle profondeur qu'ils expriment parfois quelque chose de lui qu'il avait lui-même oublié, humiliation dont la brûlure survit au souvenir même de ce qui les a causés, ruse devenue inutile, mais qui l'ont marqué comme d'un pli. « J'ai toujours été attiré par la sainteté, disait-il un jour à M. de Colombière, et curieux de ses formes les plus singulières, les plus réservées. » Le vrai est que sa rude nature concevait difficilement cet état exceptionnel de l'âme dont son intelligence cherchait à pénétrer les causes. Après être demeuré immobile un instant, l'abbé Sénabre, quittant brusquement la chambre, entra dans la bibliothèque et referma la porte avec soin. Au premier pas, son pied heurta la lampe jetée à terre. Il dut chercher avec ennui, à tâtons, une deuxième lampe, inutilisée depuis longtemps, et qu'à sa légèreté, il reconnut vide aussitôt. Enfin, il atteignit sur la cheminée un de ces flambeaux à 8 branches, d'argent massif, présent de la princesse de Salm, et il en alluma les bougies avec une hâte fébrile. En le reposant sur le drap de son bureau, il s'aperçut que sa main tremblait. Elle était là, devant lui, la feuille de papier blanc, si désirée. Elle l'attendait. Il la repoussa. Debout, il feuilletait d'un doigt distrait, le regard errant, sans le lire, les pages couvertes de sa petite écriture hardie, soigneusement ponctuées, terriblement nettes. Parfois, son attention se fixait sur un mot plus heureux, un paragraphe familier, puis s'en détournait aussi vite. Il eût voulu, il désirait presque inconsciemment n'importe quoi qui romprait le silence, un prétexte plausible ou l'aube même. Et jamais la nuit ne fut autour de lui si dense et si muette, à peine repoussée au-delà du cercle lumineux, embusquée, attentive dans tous les coins sombres, aux plis obscurs des rideaux, maîtresse absolue du dehors, de la rue tout à fait déserte, de la ville, à cette heure où la débauche même s'endort. Non point tout à fait déserte, ni muette, car tout à coup un pas sonore sur le pavé s'approcha vite, avec une sorte de régularité mécanique, et subitement cessa. Le vide silencieux s'en accrut, ou parut s'en accroître, avec une telle promptitude, que le chanoine le sentit au fond de sa propre poitrine, eut un bref mouvement de défense. D'une main furieuse, il saisit la page blanche et la jeta rageusement dans la corbeille. Que dire de sa confusion, de sa honte? Que dire de sa déception plus aiguë encore, bien que moins pressante? Ainsi, le calme retrouvé n'était qu'un leurre, son illusion un piège de plus. Vraiment, cette nuit ne s'oublierait pas, était vraiment irréparable. Le fléchissement ne venait pas d'un obstacle imprévu, extérieur. C'était bien sa force même qui avait fléchi. Un grondement de colère roula dans sa gorge, et ses doigts rapides éparpillèrent ce qui restait du manuscrit. Son regard se leva, et il aperçut, à l'extrémité de la pièce, dans le réduit plus sombre, contre la paroi blanchie à la chaux, la croix. Aussitôt, il entendit son rire. Cette fois, il ne songea point à l'éluder, l'étouffer. Il l'écouta courageusement. Puis il le voulut tel qu'il était, non moins glapissant, non moins vil. De tout son être, il l'accepta, le fit sien. Un soulagement immense, un immense allègement furent aussitôt sa récompense, et rien ne donnerait mieux l'idée de cette délivrance inattendue que l'éclatement d'un abcès. Il sentit avec étonnement, puis avec certitude, enfin ivresse, que cela qui remuait en lui, qu'il ne pouvait plus porter, avait trouvé une issue, se déchargeait. L'enfant qui, s'approchant avec terreur la nuit d'un fantôme, touche de ses petites mains un objet familier, inoffensif, ressent quelque chose de cette joie, quelque chose seulement, car il cesse simplement de craindre. Il ne méprise pas ce qu'il a craint, il ne peut se venger de sa crainte. Au lieu que l'abbé Sénabre s'ouvrait tout entier à ces délices amères, à peine connues. Il baissa les yeux, retrouva sur la table le livre innocent du père Berthier, rit de nouveau, maintenant à pleine gorge. Le retentissement de ce rire dans le silence devenait extraordinaire. La présence d'un seul témoin, la contagion de sa peur eût suffi sans doute à précipiter le dénouement de cette scène insupportable, mais ainsi déroulée secrètement, elle n'y glissait qu'avec lenteur, passait lentement du réel au cauchemar, et du cauchemar à une espèce de surnaturelle ignominie. Hélas, que de fois dans les débats de l'âme éclate au-dedans cette joie atroce. Mais nous ne l'entendons pas, et sans doute faut-il de ces circonstances rares et singulières pour que le mal force ainsi les frontières de son solennel empire et se livre à nos sens, telle qu'elle, dans un regard ou dans une voix. Qui eût entrevu à cet instant, par le trou de la serrure, l'homme encore imposant de vigueur et de santé, si calme par la taille, les massives épaules, le maintien fort et hardi, secoué par un ricanement démentiel, n'en aurait pu croire le témoignage de ses yeux. Quelque chose, dont l'enfer est ordinairement jaloux, se donnait ici sans réserve, avec une brutalité, une insolence inouïe. Était-ce là le cynisme d'une âme déjà perdue? N'était-ce point plutôt, pour une dernière et miséricordieuse tentative, l'écluse levée au secret hideux de l'âme, aux pensées venimeuses, étouffées 20 ans, 30 ans, l'aveu forcé, involontaire, matériel, pourtant encore libérateur, la miraculeuse déviation vers l'extérieur par le geste et la voix d'une hypocrisie parvenue au dernier point de concentration, au dernier degré de la malfaisance, désormais incompatible avec la vie, comme le ventre se délivre parfois lui-même d'un poison dont il est d'un seul coup saturé. Néanmoins, au milieu du délire grandissant, le témoin qui toujours veille garde encore sa lucidité. Si forte, si pressante que soit l'étreinte de l'ennemi, le pouvoir ne lui est pas donné de se substituer entièrement à nous. Comme dans la perfection même de son désespoir ineffable, il reste le doute comme un ver. Le sentiment de la fragilité, de la précarité d'une volupté qui ne peut vivre en nous, s'y fondre, introduite par effraction, maintenue par violence. Car aucune expérience ici-bas ne saurait nous donner une idée satisfaisante de l'enfer. Certes, ce qui fut l'abbé Sénabre n'avait alors, de ce qu'il agitait si furieusement, qu'une notion vague et confuse. S'il s'était vu et entendu clairement, l'horreur l'eût jeté aussitôt à l'acte qu'il ne fut tenté de commettre qu'un moment plus tard, et il l'eût alors commis. Sans doute la surnaturelle pitié lui fit cette grâce de l'aveugler quelque temps, ou peut-être ne permit-elle jamais qu'il vît le fond de sa misère. Bien des témoignages le prouvent qui découvrent dans cet homme sinistre une dernière illusion très tenace, presque niaise, puérile. L'écrivain dont la curiosité s'intéressa si fortement à toutes les épreuves des saints, et particulièrement aux plus étranges, fut ici dupe involontaire des manies critiques de sa propre pensée, l'idée de possession ne l'effleura même pas. Ce qu'il sentait peu à peu était une fatigue immense. La nuit n'était pas loin de s'achever. Son regard lourd se détachait de moins en moins de l'étroit cercle de lumière à ses pieds. L'engourdissement du sommeil le gagnait d'instant en instant. Encore incapable de mesurer la violence qu'il avait soulevée si haut pour le laisser retomber comme une pierre, il avait obscurément conscience d'une déperdition inouïe de ses forces, d'une dissipation de sa vie. Sitôt sur la pente, la volonté s'abandonna, l'être fléchit tout d'une pièce. De nouveau, il connut avec terreur que son équilibre était rompu, que les transitions habituelles qui donnent à la vie intérieure sa mesure et son rythme n'existaient plus pour lui. Qu'il ne connaissait de la joie ou de la douleur, au cours de l'exécrable nuit, que la fureur dont le double excès finit par se confondre dans la même et commune angoisse. La cause de ce brutal dessaisissement fut simple, presque comique. Mais elle s'enfla aussitôt. « Me voilà libre » s'était-il écrié un moment plus tôt, et il répétait depuis ce mot à mi-voix sans le comprendre. « Libre de quoi ?» demanda soudain une voix ironique, presque insaisissable encore au fond de la conscience. Puis, en un moment, elle grossit démesurément, couvrit tout le reste. « Libre de quoi ? Libre de quoi ?» Son rire éclata, et le retentissement lui en fut rapidement intolérable. Il sentait bien que ce rire s'était à présent retourné contre lui, qu'il le déchirait. La parole involontaire sortie de sa bouche était une chose de peu, mais elle l'avait touché au point qu'il faut. Le passé qu'il avait renié, dont il s'était senti sauvé, décidément aboli, le laissait en présence d'un avenir non moins creux, non moins vide, d'un nouveau mensonge à assumer aussi fastidieux. Libre de quoi ? C'est en vain qu'il cherchait à échapper, chaque fois il se trouvait repris. D'ailleurs, cette lutte poursuivie plus longtemps eût achevé de le mettre hors de lui. Il aimait mieux contempler en face le nouveau désastre. Hélas, il en pénétrait les causes, il l'analysait dans son semi-délire avec une certaine lucidité. De cette liberté reconquise, qu'eût-il fait ? Elle venait trop tard à supposer qu'il en eût jamais été digne. Après son enfance pauvre et sévère, la forte discipline à laquelle il s'était laissé soumettre restait encore la seule part solide, positive de sa vie. Hors d'elle, hors de sa contrainte, à laquelle s'ajoute l'autre contrainte ineffable du mensonge, quel sens aurait-elle ? Quel but ? quelle application de chaque jour. Aucune autre règle ne l'eût entièrement contenté, et il était aussi trop vieux pour recommencer un nouveau mensonge. Il n'avait aucun vice à satisfaire, et il tenait d'ailleurs la plupart d'entre eux pour de folles, de stupides dissipations. Il avait un mépris d'avare pour ses prodigalités. Alors quoi? Ne pouvait-il simplement tenir pour nul une crise sans issue, reprendre sa tâche où il l'avait laissée la veille? Cela resterait son secret. Nul n'en aurait rien appris qu'un prêtre trop scrupuleux pour parler ou qui ne rencontrerait que des incrédules. Ne pouvait-il? Eh bien non, il ne pouvait plus. Sans qu'il essayât d'expliquer pourquoi, toute nouveauté le rebute, et cependant la coupure entre le présent et le passé semble bien nette, décisive. Il serait vain de prétendre que l'ancien, le laborieux mensonge de sa vie ait été inconscient, mais d'être seulement apparu évident, nu, dans la pleine lumière de l'âme, lui a retiré je ne sais quoi d'essentiel, un rien de trouble, d'équivoque indispensable, telles ces substances qui deviennent de violents poisons, sitôt que leur équilibre chimique est rompu en présence d'un autre corps privilégié. L'épreuve qu'il vient de subir ne peut décidément être oubliée. Son souvenir rend toute paix instable, précaire. S'il peut encore tromper autrui, il ne se trompera plus. Comme lui paraissent claires désormais, explicables, certaines attitudes involontaires, par exemple la sourde colère sentie tant de fois, la défiance amère, la curiosité passionnée, douloureuse, insatiable, qui l'animait contre les héros de ses livres. Il croyait les aimer. Ainsi que tel historien chéri comme les familiers de son entourage, comme ses amis de jeunesse, les contemporains de Louis XII ou de Charlemagne, il croyait les aimer. Il ne doute presque plus de les haïr. Pourquoi s'intéresserait-il à présent aux fastidieuses poursuites de biens imaginaires, au vide affreux de leur destinée? Sans qu'il s'en doutât, n'était-il pas, tout au fond, animé par l'espérance d'arracher d'eux un secret? Mais il sait qu'ils n'ont pas de secret, qu'il n'y a rien. Ah, l'insolente pensée! Le succès, la réputation, l'autorité ne lui sont plus de rien. Dans le métier d'homme célèbre, qui n'avance point, recule. Et il a la certitude qu'il n'avancera plus, que la confiance lui manque, que le ressort de son œuvre est brisé. Les hardiesses mêmes qui ont fait le scandale des sceaux n'étaient-elles que par rapport à l'ordre relatif de sa vie, à un certain accord maintenant détruit? Elles lui paraissent frivoles. Enfin, que veut-il? Il ne veut rien. Voilà le même vertige qui l'emporte dans sa giration diabolique, le même creux dans sa poitrine, la même chaleur au front et les épaules glacées. Rien ne pourrait mieux exprimer la violence aveugle et le désordre de sa pensée qu'un cri sauvage, et pourtant le silence est solennel. De seconde en seconde, ce silence se fait plus compact, plus immobile, autour de son désespoir. Par toutes ses fibres, car à de tels moments le corps entier conçoit la douleur et la mort, il sent qu'il a dépassé le point critique, que sa chute doit s'accélérer d'elle-même. Il n'espère pas, il ne peut même plus imaginer un retour en arrière, un arrêt dans la descente verticale. Mais quoi? Il est encore trop vivant pour la subir, tombé comme un bloc. Il se tâte, il tâte d'un geste presque ingénu, pathétique, sa tête ronde et têtue, ses bras musclés, sa poitrine. Qui peut saisir au vol l'idée meurtrière, quand elle fonce sur l'âme, ainsi qu'un aigle? Elle est en lui. Avant qu'il l'ait seulement nommée, elle lui a sauté dans le cœur. S'il ne peut arrêter la chute inévitable, ah, qu'au moins il l'accélère, qu'il en finisse. Et il en était là de cette pensée lorsqu'il vit son propre revolver dans sa main droite. On ne peut pas dire qu'il approcha le canon de sa tempe, il se jeta dessus. C'était la minute effrayante où l'enfer n'est qu'une haine, une flamme unique sur l'âme en péril, perce tout, consumerait l'ange même, ne rebrousse qu'au pied de la croix. La précision, la netteté, la force imparable du geste furent horribles. Rien ne pouvait l'arrêter, à moins d'un miracle, et cette espèce de miracle s'accomplit. La queue de la détente se coinça. La main s'était serrée si convulsivement que le doigt se meurtrit et saigna sur l'arête d'acier. L'abbé Sénabre crut son arme au cran d'arrêt. À sa grande stupéfaction, il constata qu'il n'en était rien. Posément, il prit le revolver dans la main gauche et pressa doucement. Une seconde, la petite tige résista, puis elle glissa dans la rainure. Le canon était dirigé au hasard vers la muraille. La balle claqua sur la paroi de briques, ricocha dans la portière, qui n'eut qu'un léger frémissement. Un brouillard bleu, à l'odeur métallique, monta lentement vers le plafond, disparut. Toujours posément, l'abbé Sénabre reprit l'objet dans la main droite, appliqua derrière l'oreille la froide petite bouche. Il était sûr de lui, si sûr qu'il s'accorda encore une minute, non de réflexion, mais de répit. Chose étrange, le meurtre qu'il allait accomplir lui paraissait clairement stupide, monstrueux même, monstrueux dans sa stupidité, et c'était là justement sa dernière et âpre joie. Tout ce qui s'était passé cette nuit, chaque acte, chaque pensée, quelle succession d'événements bizarres, incohérents. Il allait volontairement ajouter au cauchemar douloureux un épisode de plus, aussi incompréhensible, aussi délirant, plus incompréhensible, plus délirant, ainsi qu'une folle revanche. Ce fut un éclair de haine qui l'éclaira. Il ne revit point son passé, il n'eut pas le temps de supputer l'avenir. Il ne pensa qu'à la vengeance qu'il allait ainsi tirer de lui-même. Oui, cette illumination n'eut que la durée d'un éclair. Que l'attente fut courte. Mais alors ses yeux se posèrent par hasard sur le cadran de l'horloge. Son cou était roide. La pression de la petite bouche d'acier était devenue extraordinairement douloureuse. Ses épaules lui faisaient mal, comme après une pause longtemps tenue. Il était là, interrogeant toujours les aiguilles noires, avec une insistance stupide, il n'en pouvait croire ses yeux. Car dans le moment qu'il avait saisi l'arme pour la deuxième fois, l'horloge marquait 3h05, il l'avait involontairement notée. Or, elle marquait à présent 4h10. L'hésitation qu'il avait crue si courte avait duré 45 minutes. Il aurait pu douter, il ne douta pas. Aux pensées du long rêve poursuivi, le doigt sur la détente, il eut un sursaut de terreur moins de la mort que du risque couru de glisser ainsi, d'un coup, du songe au néant. Une crampe du doigt, une pression inconsciente, et c'en était fait pour jamais. Le meurtre était accompli, mais il l'avait commis en aveugle. Ainsi eût-il été dupe jusqu'au bout d'un incompréhensible délire. La même affreuse nuit, tour à tour, lui eut volé sa vie, puis sa mort. Cette pensée l'exaspéra. Encore un coup, il serra la crosse, tâcha de concentrer son attention, dompter ses nerfs. À quiconque eût douté devant lui, encore à cet instant, de sa décision irrévocable, il eut de bonne foi répondu par un éclat de rire. Il était certain de ne pas voir l'aube. Et pourtant sa pensée, déjà rebelle, opposait une résistance sournoise, biaisait vers les images délirantes. Il entendait le coup sourd, étouffé. L'ogive de métal forait l'os frontal, faisait éclater la paroi. L'œil sautait de l'orbite sur la table, et il voyait sur le drap le globe blanc dans une glaire écarlate. L'horloge sonna 4 coups. Le cri qu'il entendit n'était pas un cri d'agonie, mais un véritable rugissement de rage impuissante. La main relâcha son étreinte. Bien pis, son cerveau travaillait déjà plus librement. Les forces qu'il avait concentrées à grand-peine se déliaient, trouvaient leur issue dans une méditation vaine. Il commençait d'observer, il redevenait spectateur. Il jeta l'arme devant lui avec une telle violence qu'elle tourna sur elle-même et rebondit 2 fois jusqu'au mur. Et presque aussitôt, il courut la reprendre, la replaça sur son bureau, à sa portée, la considérant d'un regard tantôt furieux, tantôt morne, et parfois si curieusement trouble et servile. Réellement, sa pensée ne se fixait à rien de précis, qu'était d'une idée à l'autre. Puis les traits du visage s'immobilisèrent, la peau de ses joues blêmit, son grand corps se dressa tout à coup, et par une détente si brusque qu'il parut bondir. La chose brune et brillante étincela de nouveau dans sa main, se rapprocha vivement de son front. Chacun de ces gestes fut vraiment celui d'un homme qui prend son élan, qui s'élance, car le dernier accès de la tentation, après un répit perfide, est toujours le plus violent et le plus court. Jamais encore le terrible prêtre n'avait été si près de sa fin. Et pourtant, même alors, quelque chose se brisa dans son cœur. L'élan frénétique, en apparence irrésistible, se replia, se défit. L'ombre oscilla sur le mur. Et sans perdre conscience un instant, non point atteint dans sa chair, mais comme au point le plus délicat de son vouloir, au point vital, il tomba la face en avant, les bras en croix sur le tapis, et s'y roula en sanglotant, avec un abandon, un hideux déliment de tout l'être. Il avait le nez dans la laine épaisse, bientôt trempé de larmes. Il y enfonçait sa face, il serrait dessus ses mâchoires. Un mouvement convulsif le mit un instant sur le dos, et pour échapper aussitôt à la lumière intolérable, il roula sur lui-même en rugissant. Il semblait que les forces ennemies qui se le disputaient ainsi qu'une proie cessassent dans le moment toute feinte, s'étreignissent à travers lui comme deux combattants qui se prennent à la gorge au-dessus d'un cadavre. Il en était à cet excès d'angoisse où tout lien se trouve relâché lorsque le corps participe dans son ignominieuse détresse au désastre même de l'âme, quand il n'exprime plus la douleur par aucun signe abstrait, qu'il l'a su par tous les pores. Spectacle abominable et magnifique à faire cabrer la pitié. La tentation peut bien prendre tous les masques, et c'est l'illusion de beaucoup de naïfs qu'un Satan seulement logicien. Tel vieillard sournois l'imagine assez sous les traits d'un contradicteur académique, mais c'est que l'observateur s'arrête aux jeux et bagatelles. Parfois, bien que rarement, la noire cupidité de nuire l'emporte sur d'autres délices moins promptes et moins âpres. Alors le mal se dénonce lui-même, s'avoue tel quel, non pas un mode de vivre, mais un attentat contre la vie. Ainsi cette fureur de haine qu'avait exercée jusqu'alors l'abbé Sénabre avec une si grande sagacité, jaillissait enfin tout à fait hors du sanctuaire de la conscience. L'abandon du corps supplicié exprimait avec une effrayante vérité l'âme violentée, profanée. Car l'horreur fut à son comble lorsque ce corps robuste parut cesser d'opposer aucune résistance, subit la souffrance, la dévora comme on dévore la honte. Oui, un instant, l'humiliation fut parfaite. Il ne bougeait plus, étendu de son long, la tête au creux de son bras replié. La vague de douleur avait passé sur lui sans le tuer. Sa misère était totale. De reprendre conscience dans cette posture d'animal supplicié ne l'humiliait même plus. Ou c'était cette humiliation qui suit la volupté, un sinistre détachement de soi-même. Il se sentait vaguement non plus témoin, mais sujet passif d'on ne sait quelle cruelle et double expérience, en jeu d'une lutte inexpiable. La haine, en crevant dans son cœur, l'avait d'abord investi d'une si douloureuse brûlure qu'il n'avait porté attention qu'à elle seule, mais cela ne s'attachait à rien. C'était une haine impersonnelle, un jet de haine pure, essentielle. Il en ignorait encore l'objet. Le mépris immense qui le tenait ainsi la face écrasée sur le sol ne procédait pas de cette haine, mais d'une autre force en lui, beaucoup plus mystérieuse, éclipsée un moment par le spasme fulgurant, bien qu'il sentît confusément que, cessant d'être contenu, l'expansion de cette force eût tout emporté jusqu'à faire éclater l'armure de l'âme. Oui, les deux forces avaient paru se confondre un instant, mais il devenait clair qu'elles agissaient à contresens. La haine, si cruelle qu'elle fût, le mettait en état de défense, le roidissait. L'humiliation déliait cette résistance, la réduisait lentement, obstinément, avec une sagacité terrible. Si l'une des deux forces avait retardé, puis empêché le meurtre, c'était celle-ci. L'abbé Sénabre en eut conscience. Il comprit qu'elle exigeait un retour de la vie qu'elle avait sauvée au moment suprême, un bien plus précieux que la vie, son orgueil. Elle attaquait du dedans cet orgueil, elle le dissociait. Ce n'était pas le rire ou l'insulte. L'un ou l'autre eussent plutôt redressé le misérable. C'était une tristesse pleine d'amertume, mais aussi d'une douceur inconnue à laquelle on ne saurait rien comparer qu'une espèce de plainte tendre et déchirante, un appel venu de très loin, mais dont à travers l'espace l'oreille devine la puissance et l'ampleur, au seul accent. Et certes, il retentissait dans le cœur, il eût ébranlé le cœur le plus dur. La chair même y répondait par une sorte d'alanguissement qui ressemblait à l'amour, qui était comme l'ombre de l'amour. Les larmes vinrent aux yeux de l'abbé Sénèbre, ainsi qu'une eau qui perce à travers la pierre, et il en sentait l'humidité sur son visage, avec une extraordinaire angoisse. Il ne voulait pas de ces larmes. Elles n'avaient pour lui aucun sens. Elles étaient le signe purement sensible, indéchiffrable, d'une présence contre laquelle il se sentait soulevé d'horreur. C'était comme des larmes versées en vain. La simple acceptation, l'abandon de la lutte inutile, le geste qui avoue la défaite, s'offre au vainqueur, cela seul eût ouvert la vraie source des pleurs, et il redoutait plus cette délivrance qu'aucun supplice. Il se méprisait, se haïssait dans sa détresse et dans sa honte, mais il ne pouvait, non, il ne pouvait se prendre en pitié. À ce mépris de lui-même, il se rattachait comme au seul point fixe dans l'universel naufrage. L'orgueil, dont la stratégie ténébreuse est la plus subtile et la plus forte, un moment menacé, faisait ainsi la part du feu, semblait abandonner quelque chose de lui-même, alors qu'il n'offrait à la misérable âme à l'agonie qu'une fausse et sacrilège image de la divine humilité. Car une puissante nature, jetée hors de la grâce, cherche son équilibre bien au-delà de ce contentement de soi qui est la seule sérénité du sol. Et dans la rage en apparence insensée qui la tourne ainsi contre elle-même, il ne faut sans doute voir que le premier vertige de la redoutable ivresse dont la perfection même est l'enfer, dans son silence absolu. Une fois de plus, d'ailleurs, l'abbé Sénèbre ne retenait de l'angoisse qu'il avait à trois reprises si dangereusement assaillie qu'un souvenir limité aux actes et aux gestes, désormais difficilement explicable. Le revolver sur le drap du bureau, ou ses larmes dont il ne pouvait encore tarir la source, était pareillement témoin de sa folie, mais quelle folie ! Le bouleversement soudain d'une vie si ordonnée, si bien close, le fléchissement, plus encore la disparition, l'évanouissement total, pour un moment, de ce sens critique, justement célèbre dans le monde, pouvait-il avoir d'autre cause qu'un mal physique, encore ignoré ? Et si l'on en jugeait à la violence des symptômes, ce mal était assurément grave. Il interrogea dans la glace le corps athlétique, le regard toujours jeune, la mine haute et sombre, leva les épaules avec dédain et souhaita un moment de mourir, mais d'un tel élan de tout l'être qu'il crut sentir de nouveau chanceler sa raison. Quoi ? Le mauvais rêve était donc encore vivant ? Il se frappa fortement la poitrine de ses deux poings fermés. « Je suis calme, j'ai retrouvé mon calme, j'ai la pleine possession de moi-même », répétait-il avec une colère froide et sur un certain ton oratoire dont l'emphase donnait déjà le frisson, appelait dans la chambre close la mort ou la démence. Car de toutes ses forces, il travaillait à rejeter de lui entièrement, à rejeter dans le vide du passé, dans le vide du rêve, ce qu'il appelait déjà sa crise mystique. Il pensait, une défaillance aussi brusque, sans aucun travail intérieur de préparation, obsession du scrupule dont l'histoire des âmes ne fournit tant d'exemples. Si j'ai perdu la foi, c'est par une pente insensible, et sauf la peur ridicule que je sens, je ne puis me connaître différent de ce que j'étais hier. D'ailleurs, cette crainte n'est plus. Ce qui le prouve assez, c'est que pour rien au monde, je n'appellerai à cette heure Chevance le pauvre vieux sot. Je ne puis même imaginer comment et pourquoi je l'ai appelé. Mais... Il quitta la pièce, regagna sa chambre, s'assit sur son lit. Devant la souffrance, l'homme reste enfant. Aussi longtemps qu'il n'est pas tout à fait terrassé, tant qu'il a préservé le centre même de sa résistance, le point vital qui est comme le joint de l'âme au corps, et le défaut de l'armure, l'homme ainsi que l'enfant ne voit d'autre remède à son mal que la fuite naïve et vaine. L'abbé Sénèbre eut, lui aussi, cette humble pensée. La Société internationale des études psychiques, que présidait encore Frau Eberlein, avant qu'elle eût sombré dans la folie, une nuit d'hiver, au fond de son affreuse résidence de Schlechtstadt, pleine de bêtes hallucinées, avait obtenu de l'illustre historien la promesse de prendre part à son congrès, tenu à Francfort, ou du moins d'assister à la séance solennelle de clôture pour y donner une conférence sur la mystique dans l'Église luthérienne. La date de cette clôture avait été fixée au 20 janvier, c'est-à-dire 9 jours plus tard, mais le congrès était ouvert depuis 2 semaines déjà. Il résolut de partir pour l'Allemagne le jour même. L'idée d'une disparition si soudaine, si peu attendue, surtout d'un homme connu pour son exactitude à remplir ses obligations professionnelles, par sa fidélité aux rendez-vous pris et donnés, l'antre scrupuleux de sa correspondance, cette idée seule soulageait un peu son cœur. N'était-ce point comme un essai, le timide essai d'une fuite plus sûre? Il ferma les yeux. Il se retrouva dans la rue, presque suffoqué par la fraîcheur du matin. L'humide haleine de la ville encore ténébreuse se dissipait lentement, baissait comme une eau morte jusqu'au sol, d'où l'air neuf la repoussait mystérieusement, sans doute jusqu'au fond des caves de fer et de ciment que n'échauffe jamais la générosité d'aucun vin. Il marchait d'un pas rapide, son sac de voyage à la main, gêné dans le complet de voyage en hideux tissu anglais, devenu trop étroit depuis les dernières vacances et qu'il avait tiré un moment plus tôt de sa malle, sans prendre garde aux taches et aux faux plis. Il est vrai que le visage de l'illustre écrivain ne prêtait point à rire. Son ignorance des rues de Paris était extrême. Leur solitude à cette heure le déroutait. Incapable de prêter la moindre attention aux repères les plus simples, et par exemple de lire les noms aux plaques d'émail bleu, il se guidait plutôt vaguement sur des signes connus de lui seul, une boutique d'angle, l'étalage d'un bouquiniste, telle maison familière ou même tel souvenir rencontré par hasard et reconnu tout à coup à travers la perpétuelle méditation. Mais les volets de fer des devantures, les milliers de persiennes closes, les trottoirs vides, étaient comme une autre ville inconnue. Il atteignit ainsi le boulevard de Sébastopol. Ce fut seulement à la hauteur de la rue de Rambuteau qu'il s'avisa de l'imprudence d'un départ si prompt à la pensée d'avoir laissé sans nouvelles et sans instruction sa femme de ménage et sa concierge même. Que n'imaginerait-on pas? Alors il résolut de jeter à la poste, avant l'heure du train, une lettre à l'adresse du jeune Desvignes, secrétaire bénévole qu'il utilisait parfois. L'heure du train. Mais quelle heure! Il était venu jusque-là sans la connaître, sans l'avoir même cherchée. Une telle distraction peut sembler véniale à quelques étourdis incorrigibles, mais il en saisissait à ce moment tout le sens. Il ne pouvait se faire illusion. Il était là en contradiction avec lui-même. Il ne se reconnaissait pas. Minutieux et casanier, l'horaire de chacun de ses voyages avait toujours été jusqu'alors dressé par lui avec un scrupule dont souriaient ses rares intimes. Qu'il rompit aussi brutalement avec ses habitudes, ou ses manies même qui tenaient pourtant à une part essentielle de sa vie, cela seul ne l'eût pas troublé, mais il devait reconnaître à l'instant que cette rupture était involontaire. L'oubli était flagrant, indéniable, et il portait humblement témoignage, bien que d'une manière irréfutable, du profond désordre intérieur. La désillusion en fut si cruelle que le malheureux prêtre, écœuré d'une lutte inutile, baissa la tête, médita de tourner les talons, de rentrer chez lui en vaincu. L'image passa devant son regard de la pièce qu'il venait de quitter, jadis bonne et familière, à présent marquée à jamais d'un souvenir atroce. Soudain, il cessa de respirer, retint sa salive. En un éclair de raison, il s'avisa tout à coup qu'il avait laissé son bureau tel quel, le revolver sur la table, la lampe brisée, toutes les traces de cette lutte obscure, sa soutane jetée dans un coin, mise en scène que rendrait plus inexplicable encore, sans doute, la clarté même du jour. Cette dernière preuve de son impuissance l'accabla. Et déjà il remontait à petits pas le boulevard, retournait à sa destinée. À mesure qu'il avançait, un peu détendu par l'effort, la honte de céder à la crainte d'un péril imaginaire l'emportait de nouveau sur sa crainte même. À la hauteur de la rue de Rivoli, pâle de rage, il résolut de s'en tenir, coûte que coûte, à son premier projet, dût-il courir le risque d'un scandale. Il irait en Allemagne, et puisqu'il était contraint de fuir, il fuirait jusque-là, plus loin encore, si possible, remettant à plus tard les explications et les excuses. Ce départ marquait sa défaite, mais une défaite acceptée, non pas tout à fait subie, n'est jamais un désastre irréparable. Il cédait le terrain, gardant l'espoir d'une revanche. Au lieu qu'affronter encore sans délai, sans un décisif examen de conscience, l'ennemi bizarre qu'il avait déjà terrassé, c'était proprement courir à sa perte, ou du moins à de nouvelles et plus humiliantes divagations. « J'ai besoin de changer d'air, » dit-il entre ses dents. La simplicité, la banalité de ce conseil donné à lui-même, lui fut douce. Quand il atteignit le parvis de l'église Saint-Laurent, le jour était levé, l'horloge de la gare de l'Est, peinte en rose par l'aube, marquait 5 heures du matin. Sur la gauche, à grand bruit de ferraille, un garçon de café somnolent, blême sous la crasse, levait la devanture de sa boutique. Il contempla ce passant matinal d'un regard indéfinissable. L'abbé Sénabre passa le seuil presque humblement et s'assit. Sa solitude était telle qu'il entra là d'instinct, comme on vient mourir près d'un inconnu, sur un champ de bataille désert. Il s'installa sur l'étroite banquette avec un profond soupir, suivant les allées et venues de son unique compagnon, d'un œil presque égaré, vide de toute pensée, plein d'une tendresse obscure. Déjà pénétré de respect pour ce client mystérieux où il flairait quelque ivrogne pacifique, après une nuit d'enviable délice, le garçon poussa fraternellement sur la table, sans rien dire, un bol de café brûlant et un grand verre d'eau-de-vie, puis avec une discrétion professionnelle où se marquait une commençante amitié, se reprit à frotter frénétiquement les tables d'un torchon gras marchant sur le talon de ses savates. Alors, pour la deuxième fois, une espèce de pitié cria dans le cœur de l'abbé Sénabre, et il sentit monter à ses yeux les mêmes larmes inexplicables déjà offertes, déjà différées, suprême invention de la miséricorde, universelle rançon. Que d'hommes qui crurent aussi en avoir fini pour toujours des entreprises de l'âme, s'éveillèrent entre les bras de leur ange, ayant reçu au seuil de l'enfer ce don sacré des larmes, ainsi qu'une nouvelle enfance. Il laissa tomber la tête entre ses mains, il s'abandonna. Toute sa défense fut seulement de détourner son attention, de la laisser dans le vide, de s'attacher à pleurer sans cause, ainsi qu'en s'étant pour dormir ou mourir. « J'ai pleuré longtemps de fatigue et de dégoût », a-t-il écrit depuis. Mais, en l'écrivant, il savait bien qu'il mentait, car à mesure que ruisselait entre ses doigts, jusqu'à l'ignoble marbre, cette eau solennelle, toute fatigue coulait avec elle, et il sentait frémir en lui une force immense contre laquelle sa volonté déchue se roidissait à grand-peine. Qui donc l'avait conduit là, si loin de ce petit univers où il avait vécu, dont il tirait sa substance, où s'épanouissait son orgueil, où il eût nourri son remords, pour le jeter seul dans son déguisement dérisoire, si parfaitement à la merci de lui-même? Qu'un regret eût jailli à la surface de ses ténèbres intérieures, qu'un souvenir eût seulement passé dans le champ de la conscience, d'une jeunesse tôt détruite par le calcul et la fraude, mais qui à un moment du moins eut sa candeur et sa foi, c'en était assez pour rompre le silence qu'il maintenait désespérément, qu'il opposait de toutes ses forces au Dieu vainqueur. Et certes, pour autant qu'on puisse se faire juge en une telle cause, ici même sans doute se consomma son destin. Nul n'est jeté à l'abîme sans avoir repoussé, sans avoir dégagé son cœur de la main terrible et douce, sans avoir senti son étreinte. Nul n'est abandonné qui n'ait d'abord commis le sacrilège essentiel, renié Dieu non pas dans sa justice, mais dans son amour. Car la terrible croix de bois peut se dresser d'abord au premier croisement des routes, pour un rappel grave et sévère, mais la dernière image qui nous apparaisse avant de nous éloigner à jamais, c'est cette autre croix de chair, les deux bras étendus de l'ami lamentable, lorsque le plus haut des anges se détourne avec terreur de la face d'un Dieu déçu. Sur ces décisives imprégnations du mal, le moraliste reste quoi? Sa thèse d'une pauvreté si sordide que tel esprit né pour être libre s'est jeté dans l'indifférence absolue plutôt que d'accepter cette grossière vision de l'univers spirituel, est que la perfection de la vie intérieure résulte d'une espèce d'équilibre des instincts. Le secondaire est pris ainsi pour l'essentiel. Il naît de cette erreur fondamentale une construction théorique comparable, par sa fausse évidence, sa logique sauvage, à l'explication mécanique des phénomènes de la vie. Certes, on peut dire que l'homme sinistre sur lequel pesait en ce moment 30 années de mensonges, si parfaitement consommé qu'il était devenu comme sa substance même, sa nature profonde et fatale, venait de loin et par degrés presque insensibles, se remettre aux mains de celui qui, même au temps de sa splendeur, a pu tout vouloir saisir et absorber dans sa formidable clarté, mais n'a jamais béni, intelligence monstrueuse, que l'amour, un instant entrevu dans l'abîme divin, a fait tout à coup s'effondrer dans la nuit. Néanmoins, si subtil que soit l'ennemi, sa plus ingénieuse malice ne saurait atteindre l'âme que par un détour, ainsi qu'on force une ville en empoisonnant les sources. Il trompe le jugement, souille l'imagination, émeut la chair et le sang, use avec un art infini de nos propres contradictions, égare nos joies, approfondit nos tristesses, fausse les actes et les intentions dans leurs rapports secrets, mais quand il a ainsi tout bouleversé, il n'a encore rien détruit. C'est de nous qu'il lui faut tirer le suprême consentement, et il ne l'aura point que Dieu n'ait parlé à son tour. Si longtemps qu'il ait cru retarder la grâce divine, elle doit jaillir, et il en attend le jaillissement nécessaire, inéluctable, dans une terreur immense, car son patient travail peut être détruit en un instant. Où portera la foudre? Il l'ignore. Lorsque l'abbé Sénabre releva la tête, il vit en face de lui l'humble témoin de cette scène, et qu'il observait avec une pitié singulière, stupide, aussi émouvante que certaines de ces lueurs qui passent dans les regards des bêtes. Il s'enfuit.